18h sur France Culture, le journal donc, Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un sommet social avant tout symbolique à Göteborg en Suède pour l'Union européenne. Une proclamation sur un socle européen des droits sociaux, mais rien de contraignant pour les États à ce stade. Les détails de Célia Kiré au début de ce journal. Au Zimbabwe, la fin de règne semble se confirmer pour le président Mugabe. A-t-il fait sa dernière apparition publique ce matin à l'université d'Harare? Les appels à la démission se multiplient en tout cas et la transition semble s'organiser, va nous dire Lisa Fabian. La mort du parrain de la mafia sicilienne Totò Riina marque aussi la fin d'une époque en Italie, mais elle ne signe pas la fin de la mafia qui se transforme dans le pays. Explication à suivre de Mathilde Imberti. En France, les régimes complémentaires de retraite pour les salariés du privé vont fusionner. 12 millions de personnes concernées. Analyse à suivre d'Annabelle Grelier. Le procès du tireur de Paris devant les assises. Abdelhakim Dekar avait menacé en 2013 des journalistes de BFM Libération et avait tiré sur les locaux de la Société Générale. Florence Turme va nous raconter ce qu'il est ressorti de l'étude de sa personnalité aujourd'hui. Enfin, l'enquête du journal de 18h nous emmène dans le golfe de Fos, dans les Bouches-du-Rhône. 2 fois plus de cas de cancer qu'ailleurs en France. Enquête signée Géraldine Allot à la fin de ce journal. Comment réconcilier les citoyens avec la construction européenne face à la montée des populismes? Les 27 États membres tentent de trouver la parade. À Göteborg, en Suède, un sommet social a donc été organisé aujourd'hui, le premier de ce type depuis des années. Les 28 se sont entendus pour créer un socle européen des droits sociaux. Problème, le texte n'est pas contraignant. Célia Kiré, vous êtes notre envoyée spéciale en direct de Göteborg, en Suède. Emmanuel Macron s'en est expliqué cet après-midi.
Emmanuel Macron a tenté toute la journée de défendre une Europe social, mais ce socle des droits sociaux reste théorique et non contraignant. Pas question, par exemple, de définir un SMIC européen. Le président milite plutôt pour un salaire minimum adapté au niveau économique de chaque pays.
Actuellement, 22 des 28 pays de l'Union ont un salaire minimum, mais dans 10 pays, ce salaire n'atteint pas 50% du salaire médian. Donc la situation actuelle n'est pas satisfaisante d'un point de vue social et nous ne devons pas nous y tromper.
Sauf que les autres États, notamment des pays de l'Est, freinent sur cette question. Pas facile pour le président français qui réclame aussi davantage de convergence sur la fiscalité.
Sur la fiscalité, les taux sont aujourd'hui très différents. Nous appliquons d'ailleurs à la France une stratégie de convergence vers la moyenne de la zone euro, en baissant l'impôt sur les sociétés vers la moyenne. Il y a des pays qui sont aujourd'hui très bas. Je pense que ça n'est pas sain dans la durée et qu'il nous faudrait encadrer les taux dans un corridor. Peut-être à un moment donné, au premier semestre prochain, un sommet fiscal s'imposera. Je ne voudrais pas qu'on oublie aussi les sujets de convergence environnementaux.
Ce sommet était donc surtout symbolique, même s'il marque une étape dans la construction de cette Europe sociale.
Merci Célia Kiré pour vos explications en direct de Göteborg en Suède. Par ailleurs, sur le Brexit, la première ministre britannique, Theresa May, a rencontré le président du Conseil européen, Donald Tusk, en marge de ce sommet. Ils ont discuté sur la façon d'avancer ensemble en amont du sommet européen de décembre, un sommet crucial pour Londres qui tente d'obtenir un feu vert des 27 sur les conditions du divorce afin de pouvoir envisager une nouvelle forme de relation avec Bruxelles. Bruxelles, où l'ex-président destitué de la Catalogne, Carles Puigdemont, et 4 de ses anciens ministres ont été présentés à un juge belge cet après-midi. Il s'agissait d'examiner le mandat d'arrêt émis par l'Espagne à l'encontre de ses 5 dirigeants qui ont proclamé contre Madrid l'indépendance de la Catalogne il y a un mois. Pas de décision aujourd'hui. Une nouvelle audience a été convoquée le 4 décembre prochain. Par ailleurs, depuis Göteborg, le ministre espagnol Mariano Rajoy affirme qu'il se conformera à la décision de la justice belge. En Italie, les funérailles de Totò Riina, l'un des parrains les plus violents et les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne, se tiendront en toute discrétion. Au maximum, une prière privée au cimetière sera organisée. Le devoir de l'Église est de combattre la mentalité mafieuse, déclare l'archevêque de Montréal, dont dépend le bourg de Corleone, lieu de naissance de Totò Riina. Mathilde Imberti, on rappelle que l'ancien chef de Cosa Nostra purgeait 26 peines de prison à vie. Il était surnommé le fauve, mais aussi le court, car il mesurait 1,57 m, petit par la taille, mais grand par l'emprise qu'il exerçait.
Oui, Totorina qui était détenu depuis 1993 et qui purgeait à Parme une prison ultra surveillée du centre de l'Italie. Vous l'avez dit, non pas une, mais 26 peines de détention à vie. Totorina, c'est une vie de sang et de prise de pouvoir qui démarre à la fin des années 70 quand il commence à détruire les familles de Palerme qui se trouvent sur son chemin. À l'été 79, par exemple, les cadavres tombent à Palerme par dizaines. Rina a pris la main sur Cosa Nostra. Il sera fait boss de la coupole, l'exécutif de la mafia sicilienne en 1982, une mafia qui vit de trafic de drogue, d'enlèvement, de raquettes. Puis il déclare la guerre à l'État. Arrive la saison des stragi, comme on dit ici en Italie, les massacres. Les magistrats Falcone et Borsellino, bien sûr, sont tués en 92. Et puis trois attentats à Rome, Milan, Florence, qui ont fait l'année suivante 10 morts. Mais l'État italien a réagi, il faut le signaler. Il s'est doté d'un arsenal législatif puissant qui a permis d'arrêter des dizaines de mafieux, de confisquer leurs biens. Et ils ont créé, les Italiens, le statut de collaborateur de justice, de repenti, qui a permis justement d'obtenir des informations et de démanteler la mafia dite militaire, hein, celle de Totorina, celle du sang qui coulait.
Et malgré la disparition de Totorina, Mathilde, l'influence de la mafia reste une question centrale en Italie.
Oui, car sa mort ne règle rien. La présidente de la commission antimafia, Rosy Bindi, a réagi ce matin. Totorina est mort, a-t-elle dit, mais la mafia, non. Une mafia qui n'est naturellement plus du tout celle du film Le Parrain, comme nous le précise Lirio Abate, journaliste sicilien, responsable du service enquête à l'hebdomadaire L'Espresso.
La mafia militaire, la mafia de Corleone, celle des massacres des années 80-90, a été défaite. Mais il reste un autre type de mafia, une mafia qui fait de la politique et des affaires. Aujourd'hui, un chef de Cosa Nostra vient de mourir. Le risque, c'est de voir émerger un nouveau parrain en Sicile. D'ailleurs, dans des écoutes récentes menées à Palerme, des mafieux disaient « Tant que Provenzano et Rina sont en vie, on ne pourra pas prendre le pouvoir ». Aujourd'hui, tous les deux sont morts. Le scénario reste ouvert.
Voilà, en attendant de voir ce qu'il va se passer, Totorina va être enterrée, mais sans cérémonie, elle sera interdite comme cela a été le cas pour d'autres boss avant lui.
Merci Mathilde Imberti pour vos explications depuis Rome. Au Zimbabwe, situation politique toujours très confuse ce soir, trois jours après le coup de force militaire, le président Mugabe, pourtant toujours placé en résidence surveillée, est apparu en public ce matin. Il a participé à une cérémonie de remise de diplôme universitaire à Harare, mais il y a comme un climat de fin de règne dans la capitale. Cet après-midi, le chef des anciens combattants de la guerre d'indépendance, une organisation très influente, a demandé aux dirigeants de 93 ans de quitter le pouvoir. À Harare, c'est une correspondance de Lisa Fabian.
Après être apparu hier en photo, tout sourire aux côtés du chef des armées qui contrôle la capitale Harare depuis mercredi, Robert Mugabe a fait une sortie publique ce matin lors d'une remise de diplôme à l'université. Cette apparition surprenante a pourtant tout d'un dernier tour de piste alors que les appels à la démission se multiplient. Plusieurs branches de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, ont demandé à leurs dirigeants de se retirer. La ZANU-PF serait en train d'étudier une motion visant à démettre Robert Mugabe de ses fonctions de premier secrétaire du parti. Un comité central pourrait se réunir dimanche pour en décider. Une grande manifestation emmenée par la ZANU-PF et les vétérans de la guerre d'indépendance doit également se déployer demain matin à Harare pour saluer l'action de l'armée qui œuvre à préserver les valeurs et à restaurer l'ordre du pays. Ce matin, les militaires ont publié un communiqué, le premier depuis leur coup de force, pour indiquer des arrestations parmi les criminels entourant le président Mugabe. Mais tous ces événements ne font que renforcer l'incertitude qui règne à Harare quant à l'issue finale des événements.
Correspondance de Lisa Fabian au Zimbabwe. Au Moyen-Orient, le groupe État islamique perd sa dernière localité en Irak. Il s'agit de Rawa, reprise par les troupes de Bagdad. Comme à chaque bataille, les opérations de déminage, des bombes et des explosifs laissés par les djihadistes se poursuivent ce soir. Des djihadistes qui sont désormais repliés dans les zones désertiques qui représentent 4% du territoire du pays. Saad Hariri s'apprête à quitter l'Arabie Saoudite pour Paris. Le premier ministre libanais démissionnaire sera reçu demain à la mi-journée par le président Macron. Ce matin, l'Iran a accusé la France d'alimenter les tensions en cours au Moyen-Orient en raison de ses positions partiales envers Téhéran. Réaction aux déclarations du chef de la diplomatie française jeudi dernier, Jean-Yves Le Drian, qui s'est dit inquiet de la tentation hégémonique de l'Iran au Moyen-Orient. Tout le monde a intérêt à chercher le calme. Emmanuel Macron a cherché, lui, à temporiser depuis Göteborg cet après-midi en Suède. Le conflit civil au Yémen est une guerre stupide. Ces propos émanent du secrétaire général des Nations Unies. C'est ce que rapporte en tout cas son porte-parole. Antonio Guterres, extrêmement inquiet par la situation humanitaire dans le pays. Des milliers de vies menacées à cause d'un blocus organisé par l'Arabie Saoudite qui est à la tête de la coalition contre les rebelles Houthis. Un blocus qui toutefois est en train de se desserrer. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Vous avez pu joindre un représentant de Médecins Sans Frontières à Sanaa, la capitale du Yémen.
Et MSF confirme que le blocus commence à être levé. Le port et l'aéroport d'Aden ont été débloqués, mais cela reste partiel, insuffisant, selon Ghassan de Médecins Sans Frontières, joint par téléphone, vous l'avez dit, dans la capitale yéménite Sanaa.
Nous, on ne voit pas ça encore.
Vous ne voyez pas une volonté d'aider la population civile?
Non, on ne voit pas du tout. La route entre Aden et Sanaa est longue et pas facile, et il y a des dangers aussi dessus.
Est-ce qu'il y a encore des bombardements?
Il y a toujours des bombardements dans le pays, à Sanaa, à Saada, à Haja, dans tous les villes du Nord à peu près.
Comment vous faites pour travailler, MSF?
On est en contact avec tous les partis dans ce conflit-là pour assurer qu'on a de l'accès à la population. Aujourd'hui, on a encore un stock de médicaments pour nos hôpitaux. La situation médicale de la population est en train de détériorer.
Et 20 millions de Yéménites ont besoin d'assistance. Le manque de fuel et la flambée des prix empêchent de plus en plus la population de se déplacer et d'acheter de quoi manger. Et MSF de s'inquiéter des risques de voir des personnes ne plus pouvoir se rendre dans les hôpitaux et des dangers de mort pour des malades souffrant par exemple de diabète qui n'ont pas d'argent pour se soigner.
Merci Nadine Epstein pour vos précisions. En France, après 2 années de négociations, les régimes complémentaires de retraite pour les salariés du privé vont pouvoir fusionner. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord et la date a été fixée au 1er janvier 2019. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Anne.
On parle ici de l'AGIRC qui concerne les salariés cadres et de l'ARCO pour les non-cadres, 12 millions de retraités concernés.
Oui, rappelons que cette fusion des deux caisses de retraite complémentaires est un mariage d'abord de raison, hein, motivé par les finances. Ces régimes dépensant plus qu'ils ne gagnent, ils versent plus de pensions qu'ils touchent de cotisations et ne pouvant emprunter, puisent chaque année dans leurs réserves. Si l'ARCO avait encore dans son bas de laine de quoi venir plusieurs années, les réserves de l'ARGIC étaient en revanche quasi épuisé. La fusion actée par les partenaires sociaux donnera mécaniquement une bouffée d'oxygène au système en mutualisant les réserves.
Alors, que contient cet accord ce soir?
Alors, la semaine dernière, patronat et syndicats avaient traité la question des droits familiaux comme les pensions de réversion et des modalités de financement des régimes. Le MEDEF avait alors accepté d'aligner ses droits sur le plus avantageux des deux régimes. Par exemple, l'âge auquel un veuf ou une veuve peut prétendre à une pension de réversion de 55 ans à l'ARCO, de 60 ans à l'ARGIC, a été fixé à 55 ans dans le nouveau régime unifié. Des désaccords subsistaient concernant sa gouvernance, mais ils ont été tranchés ce soir. Là aussi, de la manière la plus consensuelle, tout le monde aura le même nombre d'administrateurs. La dernière réunion a été bouclée en 3 quarts d'heure, ce qui fait dire au MEDEF que le paritarisme fonctionne pour les retraites complémentaires. Pourtant, tous les syndicats n'ont pas accolé leur signature. C'est le cas de Force Ouvrière, toujours opposée au système de bonus-malus sur les pensions pour inciter les salariés à travailler plus longtemps. En effet, la principale conséquence de cette fusion est d'allonger d'un an, à compter de 2019, la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein. La CGT, elle, rejette également ce texte, estimant qu'il ne sanctuarise pas la valeur du point de retraite, un flou qui, selon elle, permettra à terme de baisser les pensions. Suspicieuse, la CGT estime que ce texte constitue bien le premier acte de la future réforme des retraites prévue par Emmanuel Macron pour 2018.
Les explications d'Annabelle Grelier. Le procès d'Abdelhakim Dekar s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Paris. Aujourd'hui âgé de 52 ans, cet homme avait créé l'émoi en novembre 2013, un an et demi après les attaques djihadistes de Toulouse et de Montauban. Lourdement armé, il avait fait irruption dans plusieurs médias, BFM TV, Libération, où il avait fait un blessé grave, mais aussi à la Société Générale. Il est jugé pour récidive de tentative d'assassinat et pour enlèvement et séquestration. Florence Sturm, la première journée de ce procès qui va durer une semaine a concerné la personnalité de celui qu'on surnomme le tireur de Paris.
C'est un homme d'apparence tranquille, taille moyenne, cheveux grisonnants et frisés, crâne dégarni, sans grande ressemblance avec la photo issue des images de vidéosurveillance qui avait fait la une des journaux lors de la traque policière de novembre 2013. Abdelhakim Dekar a refusé l'expertise psychiatrique, refusé aussi de parler à l'enquêtrice de personnalité à Fleury Mérogis parce qu'il considérait qu'elle travaillait pour l'État. Aujourd'hui, vous êtes disposé à parler de vous, interroge le président de la Cour. Je veux bien, répond l'accusé. Depuis, j'ai fait un long travail d'introspection. Et il se lance dans un grand monologue, logoré souvent confus et heurté. J'ai grandi dans l'Est de la France dans les années 80. J'ai vécu les grèves générales dans la sidérurgie. J'ai vu des policiers et des gendarmes refuser d'obéir. Ça m'a construit. Il s'appuie sur la vitre du box. En tant qu'indigène de la République, j'ai essayé d'échapper au déterminisme social et historique. En 83, il participe à la marche des beurs, baptise son fils Manoukian en hommage aux résistants arméniens, cite Franz Fanon et Pierre Bourdieu, explique avoir travaillé pour les services secrets français et algériens. Le président s'en étonne. « J'ai fait le choix du moins pire », reprend Abdelhakim Dekar. « Le danger le plus important pour moi, c'était le fascisme islamiste et j'ai donné un coup de main. » Sur les faits aussi, il intellectualise ses réponses. « J'ai commis quelque chose d'irréparable, je le reconnais, mais il faut dissocier l'homme que j'ai été et ses faits constitutifs d'une désespérance. J'ai confondu, dit-il, mon désespoir avec ma pensée politique. »
Compte rendu d'audience signé Florence Sturm, ce qui nous amène à l'enquête du journal de 18h. Nous nous intéressons aujourd'hui à un endroit en France, un lieu où il y a deux fois plus de cancers que dans le reste du pays. Ce lieu, c'est le golfe de Fos, dans les Bouches-du-Rhône. Géraldine Allot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu sur place et vous avez enquêté pour tenter de comprendre pourquoi les habitants déclarent autant de cas de cancer.
Comment ne pas être frappé par cette famille dont la mère a eu deux cancers et le père est mort d'une crise cardiaque? Comment ne pas écarquiller les yeux dans cette rue de Fos où l'on a compté jusqu'à 9 personnes souffrant de sclérose en plaques? Comment ne pas être étonné quand cette dame de 54 ans vous dit « Moi, je suis un nid à cancer ». En l'espace de 20 ans, elle a eu 3 cancers, de l'ovaire, de la thyroïde et du sein. Vincent Bezin est médecin généraliste à Port-Saint-Louis, la commune voisine de Fos.
Quand on est venu s'installer, ma femme et moi, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, toutes les maladies rares s'étaient donné rendez-vous dans notre salle d'attente. Dans un premier temps, on s'est évidemment demandé mais pourquoi les gens sont dans cet état-là. À partir de là, et surtout parce qu'on a été bouleversé par la situation des sanitaires des enfants en matière de diabète de type 1, en matière d'asthme et en matière de maladies auto-immunes, que l'on s'est dit il y a quelque chose dans le milieu ambiant qui est responsable de ça.
Et alors, qu'y a-t-il justement dans l'air ambiant, Géraldine ?
Il y a beaucoup de fumée parce qu'il y a beaucoup d'usines. L'ouest de l'étang de Berre est l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe, avec des activités très polluantes comme la pétrochimie. Mais pourtant, il n'y a jamais d'alerte à la pollution à Fos. D'après les relevés d'AirPaca, la qualité de l'air est bonne ou satisfaisante. Alors, un groupe de scientifiques, méfiant envers ces données officielles rassurantes, a lancé ses propres campagnes de mesure de la qualité de l'air. Et les résultats sont stupéfiants. Le chimiste Philippe Chamaret est le directeur de cet institut éco-citoyen.
La première campagne de mesure de la composition de l'air a montré que l'air était composé de particules ultra-fines en très grande majorité, à 80%, d'une part, et d'autre part que la composition chimique des polluants de l'air à Fos-sur-Mer était extrêmement complexe.
Et ça, on ne savait pas qu'il y avait des particules ultra-fines dans l'air ici à Fos ?
On ne l'avait jamais mesuré. Et donc on n'avait jamais mesuré l'apparition de pics de particules très intenses et le comportement de ces particules sur le temps.
Or, plus une particule est fine, plus elle pénètre à l'intérieur de notre organisme. Les particules ultra-fines sont donc les plus dangereuses.
Si elles sont si dangereuses, ces particules, pourquoi AirPaca ne les mesurait pas ?
Parce que la réglementation européenne qui fait foi en matière d'environnement n'impose pas aux États de mesurer les particules ultra-fines. On est donc allé voir le directeur d'AirPaca, Dominique Robin, pour lui demander s'il fallait changer la législation. Et il a fini par reconnaître que oui, il fallait la faire évoluer.
Le standard de 10 ou 2,5 microns, alors c'est en gros des tailles de particules qui vont plus ou moins pénétrer dans le poumon. On sait que c'est un standard qui est un peu grossier encore et que vraiment pour répondre à l'impact des plans d'action, mais aussi mieux protéger la population, il faudrait passer à au moins moins de 1 micron. Et donc ces particules fines ou très fines sont un enjeu.
Les particules ultra fines sont un enjeu, dit le directeur d'Herpaca, comme un début de prise de conscience que oui, la pollution industrielle a des effets néfastes et sous-estimés sur la santé.
Merci Géraldine Allo pour votre enquête à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo demain samedi 18 octobre. La journée commence avec des nappes de brouillard dans l'est et le centre de la France. Alternance de nuages et d'éclaircies au nord, ciel couvert en Auvergne-Rhône-Alpes, temps lumineux dans les régions sud et les températures. 4 à Lille et Strasbourg, 5 à Lyon, 6 à Bordeaux et Paris, 8 à Cherbourg et 12 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun à la technique. C'était Thibaut Nassimben.